pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je vais prier et après on va pouvoir voir tout cela ensemble. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous plonger dans ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir aussi la comprendre. Merci parce que tu nous as donné de nombreuses choses pour pouvoir mieux te connaître, pour pouvoir avancer avec toi. Tu ne nous laisses pas démunis. Nous voulons vraiment te demander encore ce matin d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous enseigner et que nous puissions le mettre en application dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, super, merci. Donc, on est là sur la continuité de nos différentes prédications sur la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et j'aimerais juste rappeler quelques éléments en ce qui concerne ce que l'on a déjà vu. Donc je rappelle que c'est au cours de son deuxième voyage missionnaire que Paul s'est rendu à Corinthe. Après la conversion de plusieurs personnes, Paul a commencé un enseignement biblique pendant environ 18 mois, un an et demi. Et puis c'est Apollos qui par la suite est venu et qui a continué en fait cet enseignement biblique. Certains commentateurs pensent même peut-être que Pierre ou un de ses émissaires aurait pris la suite d'Apollos. Et en fait, il se trouve qu'il semblerait qu'Apollos savait très bien parler. Paul met à certaines reprises en avant le fait qu'il n'a pas de grande qualité oratoire. Et il semblerait qu'Apollos, en fait, lui, c'était le cas, il savait très très bien parler. Et plusieurs personnes de l'Église, en fait, en bon grec, aimaient les gens ayant de bonnes qualités oratoires, sachant bien parler. Et certains auraient commencé à faire des distinctions entre ces serviteurs qui étaient passés par Corinthe, entre Paul, entre Apollos, entre Pierre. Et en tout cas, il y avait donc cette raison, et pour plusieurs autres raisons aussi, il y avait des dissensions dans l'Assemblée. Et l'une de ces raisons, c'est que certains se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Pierre et certains de Christ. En fait, on voit que dans cette Église, il y avait une quête identitaire, un problème d'identité. Et pour mieux comprendre cette mentalité, il faut se replonger dans la mentalité grecque. Dans la mentalité grecque, les gens aimaient les débats. C'était des personnes, par exemple, quand on le voit, Paul qui se retrouve à l'Aréopage avec toutes ces personnes qui venaient là pour débattre. Ils aimaient les débats et ils aimaient aussi se réclamer de tel ou tel courant de pensée, de tel ou tel philosophe. En fait, ils aimaient se retrouver dans cette situation où nous, on suit telle personne, on a tel courant de pensée et on débat avec d'autres par rapport à ça. Et en fait, on retrouve ça ici dans l'Église. C'est pour ça qu'on voit aussi la façon dont la société va influer sur l'Église. Et on voit aussi donc ici ce besoin, en partie, pour les Corinthiens de se choisir un leader. Et je me suis posé cette question. Si on regarde avec honnêteté le paysage chrétien actuel, est-ce que parfois, nous, on ne fait pas ça? Est-ce qu'on ne se retrouve pas à se choisir certains leaders, à se choisir certaines personnes qui sont extrêmement charismatiques et à le suivre envers et contre tout, en éprouvant peut-être même parfois une certaine fierté de faire partie de ceux qui suivent ce leader? Toujours est-il qu'on est là, on finit au chapitre 3 avec ce propos de Paul qui dit « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Pierre, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » La réponse de cette quête identitaire, en fait, des Corinthiens, se trouve dans notre rapport à Christ. Je me permets de faire la promotion de ce livre de Neil Anderson, d'accord, qui s'intitule « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie », qui traite justement de la notion de l'identité en Christ. C'est vraiment un livre que je trouve assez exceptionnel, et donc ça vaut vraiment le coup, si vous arrivez à vous procurer, de pouvoir le lire. Je vous propose de nous plonger ensemble donc dans la lecture de 1 Corinthiens 4, qu'on puisse vraiment prendre le temps de lire le texte. Alors vous allez voir que je mets certaines intonations volontairement dans le texte, et on comprendra par la suite pourquoi. Donc, on va prendre, si vous le voulez bien, 1 Corinthiens chapitre 4, et on va le lire dans sa totalité. Ainsi qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvait porter sur moi. D'ailleurs, je n'en plus moi-même. car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner, pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livré en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Car nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traité comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, les principes de vie chrétienne pardon qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans les églises. Pensant que désormais je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur. Donc j'ai lu dans la version Summer, peut-être que certains ont certaines petites choses qui diffèrent. J'aimerais aussi juste qu'on ait conscience que la prédication de ce matin n'est pas une étude complète du texte. Il y aura peut-être une certaine frustration de ne pas avoir traité certaines parties plus particulières. Mais j'espère que ça sera une saine frustration qui nous invitera tous à pouvoir nous replonger dans le texte, à pouvoir le méditer chacun de notre côté et à pouvoir aussi en discerner ce que Christ a à nous enseigner. Dans cette prédication, j'aimerais vraiment qu'on puisse voir ensemble trois parties dans le texte. Alors, le découpage n'est peut-être pas exactement le même, même s'il ressemble par rapport à ce que vous pouvez avoir dans vos Bibles. Je propose que l'on prenne des versets 1 à 6. Tout d'abord, qu'on voit des intendants. Certains ont des parties qui coupent à 5. Je pense qu'il faut aller jusqu'au verset 6. Des versets 7 à 13, des rois. Excusez-moi, je suis trop loin, des rois ou des parias, et enfin des versets 14 à 21, des enfants. Et on va commencer donc avec cette première partie, des intendants. Et Paul commence ce chapitre par le mot « ainsi ». Il suffit de voir ça pour se dire qu'il est normal de faire un lien avec ce qui vient d'être dit précédemment au chapitre 3. Lorsqu'il parle, dans cette partie du chapitre 4, des intendants, des serviteurs de Christ, Paul place Apollos, Pierre et lui-même dans cette catégorie. La notion des secrets de Dieu a déjà été vue dans les chapitres précédents. Mais la phrase qui revêt une importance particulière ici est la réponse du verset 2. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Alors là aussi, on se rappelle un peu du contexte. Rappelons-nous que c'est à Corinthe que Paul a rencontré Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas qui se sont fait expulser de Rome suite à un décret de l'empereur Claude. Et comme Priscille et Aquilas étaient fabricants de tentes et que c'était aussi un métier que Paul connaissait, ils ont travaillé ensemble. Rappelons-nous donc également que Paul n'a pas demandé d'argent aux Corinthiens quand il a travaillé parmi eux, mais il a cherché à subvenir à ses propres besoins en travaillant de ses mains. De notre point de vue, lecteur d'aujourd'hui, on pourrait se dire, mais en fait, c'est génial. Avoir quelqu'un qui est autant impliqué dans l'Église, qui sert le Seigneur et qui demande rien à personne, qui travaille de ses mains pour subvenir à ses propres besoins, on se dirait, mais certaines églises qui n'ont pas forcément les moyens seraient aux anges de pouvoir avoir un serviteur comme ça qui ne demande rien. Et en fait, il semblerait, des différents commentaires que j'ai pu lire, il semblerait que à l'époque, ça n'est pas comme ça que c'était vu. En effet, certains Corinthiens auraient eu à un moment peu d'estime pour Paul, non pas à cause de la façon dont il accomplissait son ministère et la tâche que Dieu lui avait confiée, mais parce qu'à l'époque, les enseignants étaient payés. Et c'est comme si le fait que Paul ne soit pas payé les offensait dans leur orgueil, car eux, ils avaient les moyens. D'habitude, on payait l'enseignement reçu. Et que quelque part, le fait qu'on ne paye pas pour l'enseignement de Paul pouvait peut-être laisser à penser que l'enseignement n'était pas de grande qualité, puisqu'un bon enseignant se serait fait payer pour son enseignement. Ces Corinthiens qui avaient de l'argent trouvaient donc assez outrageant que Paul refuse leur argent et travaille. Ainsi, ce n'est pas la façon dont il a accompli sa tâche qui était le problème, ce n'est pas le cœur de Paul, ce n'était pas l'homme qu'il était le problème, mais l'orgueil de ces personnes-là les poussait à ne pas accepter Paul tel qu'il était, c'est-à-dire un bon enseignant qui avait des choses à leur apporter. Et cela m'a interpellé. Quand un serviteur ne fait pas les choses comme on le voudrait ou comme on le jugerait bien, est-ce qu'on n'aurait pas tendance, nous aussi, à commencer à lui trouver tous les défauts du monde et finalement se permettre de le juger, lui, en tant que personne, plutôt que d'apprécier la fidélité avec laquelle il accomplit son service? En effet, Paul ne dit pas qu'il accomplisse son service et que le résultat soit bien, mais qu'il accomplisse fidèlement son service. La qualité que l'on demande au serviteur, c'est d'accomplir fidèlement son service. D'ailleurs, on voit, à la fin du chapitre 4, quand il envoie Timothée, il précise que Timothée était fidèle. Dans les traductions que j'ai regardées, je n'en ai pas trouvé une seule qui ne parle pas de la fidélité de l'intendant. C'est bien le mot qui sort ici. La qualité requise, c'est la fidélité. Et Paul appelle à être fidèle dans la tâche. Alors, ici, il ne parle pas de la fidélité dans la lecture ou la prière, même si c'est une vérité biblique. Mais ça n'est pas abordé ici. En fait, il précise, avec l'humilité du simple serviteur, que ce qu'il recherche, c'est la fidélité dans le service. Ce qui s'oppose finalement à l'orgueil dont Paul va faire mention plus tard. Et là, on pourrait imaginer Paul, sujet critique, qui pourrait décider de jeter l'éponge par rapport à l'église de Corinthe. On voit que l'église de Corinthe, en tout cas certaines personnes de l'église de Corinthe, n'ont pas toujours eu à son égard l'attitude qu'il aurait pu attendre. Et lui, il ne jette pas l'éponge. Il continue à accomplir sa tâche de berger avec fidélité. Et on a deux épîtres qui en sont la preuve. Et cela, en fait, a été un gros bénéfice pour les Corinthiens. Et c'est un bénéfice pour nous, aujourd'hui, qui pouvons lire cela dans la parole de Dieu. Et cela m'amène à deux questions. Premièrement, de façon personnelle. Pourquoi personnelle? Parce que la Bible nous interpelle toujours dans notre comportement. Est-ce que je fais tout pour être fidèle dans mon service? Est-ce que je fais toute chose avec assiduité? Ou est-ce que je fais cela en dilettante? Est-ce que quand je dois faire quelque chose, est-ce que je mets le sérieux qui est nécessaire pour le faire? Est-ce que je considère vraiment l'importance de ma fidélité dans le service? Parfois, personne ne voit ce que l'on fait. Mais Dieu, qui est le seul apte à juger, lui le voit. Lorsque j'étais à l'église de Grenoble, dans mon jeune temps, j'étais admiratif du pasteur que nous avions à l'époque. Outre la préparation des messages et les nombreuses visites aux personnes âgées, c'était un homme qui, lorsqu'il avait un peu de temps libre, prenait des tracts et allait faire du porte-à-porte en cité universitaire. Alors, je ne doute pas une seconde que les anciens étaient au courant, mais en tout cas, au niveau de l'église, on ne savait pas particulièrement qu'il faisait ça. Je l'ai appris, en fait, simplement en le croisant. Il se trouve qu'il y avait des cités universitaires sur le chemin qui me ramenait depuis le tram. Et je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bon, j'ai un peu de temps. Alors, je distribue des tracts en cité. C'était quelqu'un, on ne voyait pas ce qu'il faisait, mais il le faisait avec fidélité. Parce qu'il savait que c'est Dieu seul qui juge et que ce que l'on peut faire dans notre service a une portée éternelle. Et je peux vous garantir que ce pasteur a été un exemple pour moi. Est-ce que nous accomplissons fidèlement notre service? Peut-être et même sûrement que de nombreuses personnes ne savent pas le temps et l'énergie que l'on peut consacrer à ce service. Mais est-ce que nous le faisons pour être vus des autres et sans le désir de plaire à Dieu avant tout? Ou alors est-ce que nous le faisons avec fidélité? Et deuxièmement, une deuxième question, c'est est-ce que je juge celui qui sert? En fait, ce n'est pas à moi de juger ni de sa fidélité, ni de son résultat. Et bien souvent, quand je ne parle pas d'apprécier le résultat, je parle de juger le résultat. Parce que lorsqu'on juge, on finit souvent par juger la personne. Dieu seul est le juste juge. Et le résultat d'un service accompli fidèlement appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. Et Paul, qui même s'il ne peut pas juger du résultat, parce qu'on ne voit pas toujours les fruits de ce que l'on fait, peut sans peine évaluer la fidélité qu'il met dans le service. Et Paul peut dire, peu m'importe d'être jugé par vous ou par une instance humaine. Moi-même, je ne me juge pas. Car même si je ne me reproche rien, c'est Dieu seul qui juge. Là, on parle bien d'un jugement sur une personne. On parle bien d'apprécier la qualité d'une personne. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on imaginer que nous sommes à même de juger du cœur d'une personne et de ce qu'il fait par rapport à Dieu? C'est absolument impensable. Et j'essaie vraiment de me mettre à la place de Paul. Et j'aimerais que ce matin, si vous le voulez bien, on fasse un peu ce travail de projection ensemble. D'accord? On essaie de se mettre à la place de Paul. Avant d'arriver à Corinthe, avant qu'il vienne pour évangéliser à Corinthe, Paul venait de subir des moqueries suite à son discours à l'Aréopage, quand il était à Athènes. Et il arrive à Corinthe, peut-être avec le cœur lourd. Alors effectivement, Dieu lui a fait la grâce de voir quelques conversions à Athènes. Mais malgré tout, il s'est fait railler par les personnes qui étaient à l'aéropage, à l'aréopage. Et en fait, il arrive peut-être avec le cœur lourd. Et il se trouve que c'est merveilleux la façon dont Dieu va toucher le cœur des Corinthiens. Il enseigne chez un certain Titus Justus, et c'est juste à côté de la synagogue. Et on sait la pression que les Juifs ont pu mettre à Paul et sur ses enseignements. Ça n'était pas facile. Et pourtant, il y a Crispus, le chef de la synagogue. C'est quelque chose d'énorme. Le chef de la synagogue qui se convertit. Et une nuit, le Seigneur parle à Paul et lui dit de rester à Corinthe, car Dieu a un peuple nombreux ici. Alors tout cela, tout ce dont je vous parle maintenant, vous pouvez le retrouver dans Actes chapitre 18. N'hésitez pas à vous replonger dedans pour voir le contexte et ce dont on parle ici. Et donc là, il y a ce miracle. Il y a des gens qui se convertissent. Il reste 18 mois pour les enseigner. Quand on voit la façon dont Paul à mener sa vie, on voit que rester 18 mois quelque part, c'était pas quelque chose de traditionnel. Il le faisait rarement. Et en fait, là, il enseigne. Il fonde une église. Après ça, Apollos lui succède pour enseigner. Et là, peut-être qu'il se dit, c'est bon, ça se passe bien. Enfin, après les difficultés à Athènes, le fruit du travail, on le voit. Et non. Et non, puisque pendant que Paul se trouve en Asie, probablement à Éphèse, il reçoit des nouvelles désolantes de l'église de Corinthe. Vous imaginez la tristesse qu'il a dû ressentir? Se dire, j'ai passé tant de temps avec eux. Et là, en fait, je reçois des nouvelles comme cela. Passer tant de temps à les enseigner, à leur montrer l'exemple, à tout faire pour ne pas leur être à charge, afin que personne ne puisse penser qu'il fait ça pour de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était les gagner à Christ. Et le pire, c'est que certains, après tout ce temps passé avec eux, en voyant tout l'amour qu'il a eu pour eux, ont pour Paul des jugements complètement déplacés. Et cela a dû être affreux pour lui. Un sentiment d'incompréhension, mais il a une peine profonde. Peu de temps avant les vacances, une élève est venue me voir, elle a demandé à me parler, et elle m'a dit « j'aime pas vos cours ». Autant au début d'année, je les aimais bien, mais maintenant, j'aime plus vos cours. Et ça fait mal quand on reçoit une info comme ça. Ça remue, ça travaille, on cogite. J'ai toujours voulu que mes élèves se sentent bien dans ma classe. J'ai toujours pensé que pour bien apprendre, il fallait être en confiance, il fallait être dans un bon climat. Et jusqu'à présent, je pensais réussir pas trop mal, j'avais plutôt de bons retours. Et puis ça, cette phrase, j'aime pas vos cours. Je peux vous garantir que ça m'a bien travaillé. C'est dur d'être remis en cause. Alors, il y a des raisons qui expliquent cela, je l'ai mis dans un groupe qu'elle n'aimait pas et elle n'était pas très contente et du coup, son attitude a commencé à se dégrader. Mais on a beau essayer d'avoir tous les arguments rationnels de la Terre. Je peux vous garantir que ça continue à travailler encore et encore. Il a vraiment fallu que je me dise que j'accomplissais mon travail avec fidélité et sérieux pour que cette tracasserie n'en soit plus une. Le problème n'était pas la personne qui me renvoyait ce que je faisais. Le problème, c'était est-ce que je fais mon travail avec fidélité? Et il m'a semblé que oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à avancer. J'ai pu commencer à arrêter d'y penser. Parce que je vous garantis que ça tourne en boucle. Et je me dis que quand je vois comme ça m'a fait cogiter, alors que franchement, c'est pas le bout du monde non plus, j'imagine même pas ce que cela a dû être pour Paul, avec tout le temps qu'il avait passé avec eux. Paul devait enseigner l'Église, et peu lui importait d'être jugé par des hommes. Il sera justifié par Dieu. Aimons, Accompagnons les serviteurs qui sont autour de nous, mais ne jugeons pas les personnes. Cela n'est pas facile d'être un mentor. Il y a d'ailleurs un article très intéressant qui a été écrit par une personne qui s'appelle Brigitte Sterland sur un site qui s'appelle Parole de mentor, et je vous encourage vraiment à lire cet article qui s'appelle Épouse de leader, victime collatérale. Et c'est vraiment un très bon article. Et en fait, d'ailleurs, chose assez amusante, j'ai lu cet article en me disant, il était vraiment bien l'article, et à la fin, je vois Brigitte Sterland. Et du coup, en fait, vraiment, c'est important de pouvoir accompagner, de pouvoir aimer les serviteurs. Quand je parle de serviteurs, je ne parle pas que de ceux qu'on voit d'habitude qui sont devant. Il y a de multiples occasions de service dans l'Église. Pour que l'Église fonctionne, il y a plein d'occasions de servir. Que nous puissions aimer, que nous puissions accompagner chacun de ces serviteurs et qu'on puisse simplement les encourager à être fidèles. Puisque finalement, dans cette crise identitaire, ce que l'on voit au niveau de l'identité des Corinthiens, c'est qu'ils devaient comprendre que ce qu'on leur demande, c'est d'être des serviteurs fidèles et de ne pas être des juges. On arrive à cette deuxième partie, roi ou paria. Alors, vous allez m'excuser, je dois confesser un plagiat. J'ai tiré ce titre de section de la version Parole vivante d'Alfred Kuhn, mais je l'ai trouvé tellement bien que je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas le mettre. Roi ou paria. On entre ici dans une section du texte dans laquelle il faut sentir l'ironie de l'apôtre. J'ai essayé de le faire ressortir dans ma lecture, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais on voit de l'ironie dans ce texte. Dans leur orgueil, les Corinthiens se voyaient pleins de dons plus grandioses les uns que les autres, fiers de suivre telle ou telle personne, Paul, Apollos, Pierre, fiers de leur réussite sociale, fiers et arrogants sur leur façon de vivre leur foi. Bref, les Corinthiens avaient le sentiment que leur espérance pour après était déjà en train de se réaliser ici-bas sur cette terre. L'espérance de toutes ces merveilleuses choses qui doivent se passer après le retour de Christ se passait déjà ici. Et ça, en théologie, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie surréalisée. Alors, c'est un terme qui peut sembler compliqué, mais en fait, c'est extrêmement simple. L'eschatologie, c'est quoi? C'est la partie de la théologie qui traite de la fin des temps. L'eschatologie surréalisée, c'est simplement le fait d'attribuer à notre vie ici-bas, maintenant, les particularités qui ne seront vraies qu'après le retour de Christ. Toutes ces choses merveilleuses, la santé, la prospérité, etc., toutes ces choses qui arriveront quand nous serons auprès de notre Seigneur, eh bien, si on considère que ces choses doivent survenir maintenant, on est dans l'eschatologie surréalisée. Et Paul leur montre à quel point on ne peut pas raisonner comme cela. Ça n'est pas possible. En fait, c'est intéressant de voir que Paul vient juste de parler des serviteurs. Et en fait, il vient juste de montrer que les Corinthiens se réclament de Paul, d'Apollos, de Pierre. Tout ça, en tout cas, Paul et Pierre sont des apôtres. En fait, il les monte au nu. Et il est en train de leur dire, mais c'est dommage que vous ayez commencé à régner parce que nous, les apôtres, les personnes que vous montez au nu jusqu'à présent, les personnes de qui vous vous réclamez, nous, on est mal considérés dans le monde. C'est fou quand même que vous soyez si bien considérés que vous ayez déjà commencé à régner, mais que les personnes de qui vous prétendez suivre le courant, ces personnes-là, elles ne soient pas comme vous. En fait, les Corinthiens se vantaient de tant de choses alors que c'était simplement des grâces de Dieu. Ils se voyaient déjà les rois du monde. Quand Paul dit « Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous », il exprime simplement qu'à la fin, après le retour de Christ, tous régneront. Et Paul aimerait y être, mais il n'y est pas. Cela ne signifie pas qu'il faut être attentiste. Cela ne signifie pas qu'il faut se dire qu'on va attendre les bras ballants le retour de Christ. Paul vient de parler de la fidélité du serviteur. Il parle des apôtres, de leur façon de vivre. Il dit que les apôtres travaillaient de leurs mains, ce qui, au passage, est une façon de répondre à ceux qui auraient pu lui reprocher d'avoir travaillé de ses mains. Il dit aussi qu'on les insulte, ils bénissent. On les persécute, ils le supportent. On les calomnie, ils répondent par des paroles bienveillantes. D'ailleurs, Paul est en train d'écrire une lettre. Et à la fin du chapitre 4, il va les appeler « mes enfants bien-aimés ». Il a subi des critiques. Il leur répond avec des paroles bienveillantes. Et au verset 16, Paul dira « Je vous invite à suivre mon exemple ». Ici, il faut bien comprendre quelque chose. Nous sommes des citoyens des cieux. Comme le dit Paul en Philippiens chapitre 3, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera leur perdition. » Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. En fait, il faut bien comprendre que nous sommes citoyens des cieux. Et nous sommes appelés à vivre ici-bas selon les principes du royaume. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire tout au long de l'épître aux Corinthiens. Il leur appelle à vivre selon ces principes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vivre comme s'il y avait déjà eu le retour de Christ. Je vous conseille un excellent article sur le site pointeo.com de Thomas Pouette qui s'intitule « Vous avez dit citoyen des cieux ». Paul utilise une image forte, celle des condamnés à mort qui suivaient le cortège du général triomphant. Ces personnes-là qui étaient condamnées à mort étaient menées à l'arène et on clôturait souvent les spectacles en les voyant affronter des animaux, des gladiateurs. La position qu'il décrit ici, cette position de paria, de condamné à mort, est à mettre en opposition avec ce statut de roi que se donnaient les Corinthiens. Si nous sommes appelés à vivre selon les principes du royaume, nous ne sommes pas pour autant en train de régner. Cela nous rappelle avec une évidence forte la brièveté, la fugacité de notre vie dans ce monde. Et cela m'interpelle. Est-ce qu'on a conscience que la façon dont on vit dans ce monde, les choses que nous faisons, notre service, notre implication, tout cela a une portée éternelle et ne sera pas nécessairement reconnu ni apprécié à sa juste valeur durant notre vie présente? Est-ce que notre orgueil nous pousse à vouloir vivre comme des rois? Ou est-ce que nous acceptons qu'en tant que résidents temporaires sur cette terre, il ne faut pas s'étonner de ce que parfois le monde nous traite en paria? Au niveau de leur identité en Christ, au niveau de notre identité en Christ, nous ne sommes pas des rois. Nous sommes peut-être des parias de ce monde, mais en tout cas, nous sommes citoyens des cieux. On arrive à la troisième partie, des enfants. Là, on vient de voir plusieurs reproches qui ont été faits, un réquisitoire. Mais si Paul leur parle comme cela, ce n'est pas pour que les Corinthiens soient confus, mais pour qu'ils puissent se rappeler que Paul a pour eux de l'affection. Il est celui qui est venu leur annoncer la parole qui sauve. Il est celui qui a travaillé, qui a peiné, qui a sué pour que les Corinthiens découvrent le cadeau de Dieu, pour que les Corinthiens puissent passer de la mort à la vie. Comme le dit Paul, c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Lorsque je vois l'attitude des Corinthiens, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un enfant qui aurait été adopté, qui aurait été aimé par sa famille adoptive et qui serait en train de dire à son père « De toute façon, tu n'es pas mon père ». Le père pourrait légitimement répondre « Je t'ai élevé, je t'ai nourri, je t'ai enseigné, je t'ai aimé. Que tu le veuilles ou non, je suis ton père. » L'expression « 10 000 mètres dans la foi » mérite une petite explication. Le terme utilisé ici pour « maître » d'accord, est le terme qui est utilisé en grec pour l'esclave qui avait la charge de l'éducation des enfants. Paul leur dit clairement « J'ai fait votre éducation comme un serviteur fidèle. Votre père dans la foi, c'est moi. » L'apôtre ne cherche pas du tout ici à usurper la place de Dieu, comme pourraient le faire certains gourous. Non, il expose clairement que quelle que soit l'attitude des Corinthiens à son égard, il a la pour les sermonner et pour les encourager. J'ai souvent trouvé étonnant cette façon que Paul avait de demander à ce qu'on suive son exemple. Mais dans la mesure où certains se réclamaient de Paul, d'Apollos, de Pierre ou de Christ, Paul aurait simplement pu dire « imiter Christ ». Mais Paul veut leur rappeler les principes de vie chrétienne qu'il est possible d'appliquer au quotidien. Cet exemple nous prive de cette excuse de mauvaise foi que l'on pourrait donner parfois « oui, mais Jésus, lui, il était parfait, c'est normal ». Vous savez, cette excuse, vraiment, qu'on sort juste parce qu'on se dit « ça, je ne peux pas le faire, donc je vais dire que c'était Jésus qui le faisait, étant parfait, je ne peux pas le suivre ». Paul, il dit « imitez-moi ». Et Paul a une juste compréhension de la parole de Dieu et de ses enseignements. Il suit avec fidélité le Christ. Et en fait, c'est un rôle de parent qui ouvre la voie et qui montre l'exemple. Tout parent est un modèle pour son enfant. Certains enfants pourraient être choqués de ce modèle et souhaiter s'en éloigner, ou d'autres pourraient être encouragés et souhaiter suivre l'exemple de leurs parents. Mais tout parent est un modèle. Paul écrivait à Timothée en l'appelant son véritable enfant dans la foi. Et il lui dit clairement en 1 Timothée 4, 12, que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Encore une fois, il me vient deux questions. quel est mon modèle et quel modèle suis-je pour les autres. Il n'est pas malsain d'avoir un ou plusieurs modèles, mais attention à celui que je prends pour modèle. Est-ce que je prends pour modèle un serviteur fidèle qui se nourrit de la parole et qui, sans être parfait, on en a conscience, nous n'avons pas à le juger, essaye de vivre en accord avec les principes du royaume de Dieu? Bien entendu, le modèle suprême est Jésus-Christ. L'exemple qu'il nous montre au travers de sa vie est une source merveilleuse d'encouragement. Mais on a aussi besoin, parfois, de regarder un homme de Dieu fidèle afin de pouvoir s'en inspirer. En gardant à l'esprit les recommandations de Paul, cet homme n'est qu'un homme, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. Alors n'attendons pas de lui qu'il soit parfait, ne le plaçons pas trop haut, mais sachons nous inspirer de ce que nous voyons de l'œuvre de Christ en lui. Gardons de même en tête que quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quelle que soit notre maturité dans la foi, nous sommes le modèle de quelqu'un. Nous ne pouvons peut-être pas affirmer, comme Paul, avoir des enfants dans la foi, mais nous sommes le modèle de quelqu'un. En ce sens, quand nous regardons, certains vont chercher à voir qui est Christ et ce qu'il a fait. Alors, demandons à Dieu de nous aider à être fidèles, afin de ne pas être un prisme déformant, mais être un miroir limpide, reflétant l'œuvre de Christ et le message de la croix. Que par nos vies, cette folie aux yeux des hommes, qu'est la croix, prenne le sens d'un salut que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, révélera aux yeux de celui qui le cherche. Paul conclut le chapitre 4 en rappelant à ceux qui, par orgueil, ont souhaité éclipser l'exemple des serviteurs fidèles, comme Paul, pour s'attirer une gloire charnelle, qu'en tant que père, il y a deux façons de voir la suite pour eux. Est-ce qu'il va revenir avec un bâton ou est-ce qu'il va revenir avec un esprit d'amour et de douceur? Et là, encore une fois, deux questions me reviennent. J'aurais dû appeler cette prédication « les deux questions ». Premièrement, est-ce que je suis enseignable? Est-ce que j'accepte de recevoir les retours, parfois même les reproches faits avec amour, d'une personne qui pourrait être un père dans la foi pour moi? Et deuxièmement, est-ce que je suis capable, tout comme Paul demande à Timothée de le faire en 2 Timothée 4:2, de prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant? L'enseignement ne se fait pas forcément à la chaire le dimanche matin, mais dans sa famille, avec nos enfants, avec notre entourage, avec nos collègues de boulot. Les occasions d'enseigner sont multiples. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de creuser la parole de Dieu parce qu'on ne prêche pas. Loin de là. On a besoin de se plonger dans la parole de Dieu, d'en découvrir les mystères pour pouvoir les expliquer aux gens qui sont autour de nous et pour pouvoir annoncer Christ. Au niveau de l'identité, nous sommes disciples de Christ et nous sommes en chemin. Nous sommes des enfants et nous avons encore des choses à apprendre. Acceptons-nous. Pour conclure, je dirais que lorsqu'on lit cet épître, on se dit que le chemin à parcourir pour les Corinthiens est juste énorme. Quand on voit l'ensemble des choses qui leur sont présentées par Paul, on se dit que c'est juste énorme. Mais à Dieu, rien d'impossible. En effet, quel encouragement formidable lorsqu'on va un peu plus loin. En 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 4 à 9. 2 Corinthiens 7 m'a fait énormément de bien. « Grande est mon assurance quand je parle de vous, grande est ma fierté à votre sujet. J'ai été pleinement réconforté, je déborde de joie dans toutes nos détresses. En effet, à notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu un instant de repos. Nous avons connu toutes sortes de détresses, conflits au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement sa venue qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a fait part de votre ardent désir de me revoir, de votre profonde tristesse, de votre dévouement à mon égard. Et tout cela n'a fait qu'augmenter ma joie. C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment, mais maintenant je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. Ce changement a été possible, car Paul ne s'est pas détourné de ses enfants, il a été fidèle dans son service, et cela a porté du fruit. Il a sûrement vécu des moments difficiles, de la tristesse même, comme on vient de le lire, mais cela a eu une portée éternelle, qui est sans commune mesure avec ce qu'il a pu ressentir. La peine, parfois éprouvée, sur le chemin des serviteurs que nous sommes, ne sera rien comparé au fruit que Dieu produira à travers un service fidèle qu'il me demande d'accomplir. Gardons-nous donc de juger ou d'idolâtrer quelqu'un. Gardons-nous de nous voir déjà arriver alors que nous sommes en chemin. Ne cessons pas de nous rapprocher de Dieu. Plus proches nous serons de lui, plus exacte sera l'image que nous reflèterons. Passez un très bon dimanche. Merci.